Une mission pour faciliter la recherche d'un accord consensuel. Rémi Bastini, Thierry Lataste et Benoît Lombrière, arrivés ce matin, sont déjà au travail. Une mission qui sera le thème de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, à retrouver comme chaque lundi dans ce journal. Chapitre des faits divers, l'agression d'un septuagénaire à la fois vendredi matin. L'un des agresseurs a été identifié et l'enquête se poursuit. En métropole, Jordan Bardella agressé lors d'une séance de dédicace à Moissac ce week-end. Le président du RN s'inquiète de la violence qui se manifeste de plus en plus souvent à l'encontre des élus. Et puis la visite du pape Léon XIV au Liban. Le souverain pontife exhorte les Libanais à ne pas quitter leur pays malgré les énormes difficultés auxquelles ils doivent faire face. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Quelques grands titres de l'actualité sportive que nous développerons dans le magazine des sports à la fin de ce journal. Michael Juneski, nous parlerons notamment Formule 1 parce que le championnat du monde des pilotes n'est toujours pas joué.
Et oui, la F1 qui réserve tout son suspense cette année alors que les McLaren avaient surfé sur la première partie de saison. Désormais, c'est Max Verstappen sur Red Bull qui se sent pousser des ailes et qui pourrait rafler la mise en conservant sa couronne. Depuis Las Vegas où les cartes ont été rebattues, cette fois au Qatar, le coup de poker n'a pas marché pour McLaren. Une stratégie qui a laissé le Néerlandais file vers la victoire. Résultat des courses, il n'est plus qu'à 12 points du leader Lando Norris. Avant le dernier rendez-vous de la saison, ce sera à Abu Dhabi dans une semaine.
On parlera évidemment football avec la Ligue 1 et un nouveau leader.
Mais ça n'était plus arrivé depuis 21 ans. Même les Lensois qui occupent la première place du championnat de France. Le RC Lens qui a battu Angers 2-1 pour dépasser l'OM et le PSG sur le podium. À l'issue de cette 14e journée, Marseille tenu en échec par Toulouse hier, 2-2. Alors que Paris a perdu contre Monaco 1-0. Et voilà le trio qui s'échappe et qui va probablement batailler jusqu'à la fin de la saison. À qui saura garder la cadence du PSG?
Et puis une belle page consacrée au handball dans le magazine des sports tout à l'heure.
Avec tout d'abord le mondial et la victoire des handballeuses françaises face à la Chine aujourd'hui, 47-21. Elles assurent une place dans le tour principal avant de défier la Pologne. La calédonienne Suzanne Wajoka, madame 100%, a encore livré une belle prestation avec un 7-7 pour 17 buts inscrits déjà depuis le début de la compétition. Nous commenterons ses performances et nous passerons en revue l'actualité de la Ligue calédonienne. Nous serons avec son président Yann Collet ainsi qu'Olivia Baitanaki, la responsable du pôle espoir de handball.
Le magazine des sports à retrouver donc dès la fin de ce journal. Un nouveau drame sur les routes calédoniennes ce matin. Vers 7h, un choc frontal s'est produit à Touhou-Mission. Deux pick-up se sont percutés. La conductrice de l'un des véhicules est décédée. Son bébé, qui se trouvait à bord, a été transporté au dispensaire. Dans l'autre voiture se trouvaient deux hommes. Le conducteur a été gravement blessé, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Quant à son passager, il a été blessé plus légèrement. Depuis le début de l'année, 31 personnes ont trouvé la mort sur les routes calédoniennes. Venons-en à l'actualité politique. Rémi Bastille, Thierry Lataste et Benoît Lombrière sont arrivés en Nouvelle-Calédonie. Ce sont les facilitateurs qui ont été chargés de parvenir avec l'ensemble des partenaires à un accord consensuel sur l'avenir du territoire. Ils sont mandatés par le Premier ministre et la ministre des Outre-mer pour lever les ambiguïtés, consolider le texte et favoriser l'adhésion la plus large possible. Le calendrier de présentation du projet de loi sur la consultation des Calédoniens va évoluer en raison de leur venue. C'est ce que confirme la lettre de mission que leur a adressée la ministre des Outre-mer, Elisabeth Noir.
La mission est trop aux fonctionnaires qui connaissent bien le dossier calédonien et d'appuyer l'action du gouvernement pour parvenir avec l'ensemble des partenaires à un accord consensuel sur l'avenir du territoire, a annoncé le ministère des Outre-mer. Dans le courrier qu'elle leur a adressé, Naïm Mamoudchou précise qu'elle leur a confié une mission d'écoute des responsables politiques, économiques et sociaux de la Nouvelle-Calédonie en vue de proposer au gouvernement les éclaircissements, ajustements ou compléments qu'ils estimeraient nécessaires dès lors, et c'est important, dès lors que ceci permettrait de renforcer l'adhésion actuelle au texte de l'accord sans en altérer l'architecture générale et dans le respect du mandat que les Calédoniens nous ont confié à l'issue des trois référendums. La ministre des Outre-mer qui rappelle que les Calédoniens ont fait part de leur volonté de continuer à inscrire la Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble français. Elle ajoute que l'État souhaite continuer à avancer sur la stabilisation des institutions de la Nouvelle-Calédonie dans un dialogue respectueux de chacun, sans passage en force, mais sans paralysie non plus. C'est la raison pour laquelle, écrit-elle, je vous demande de bien vouloir vous rendre sur place le plus rapidement possible et me faire part de vos suggestions d'ici une quinzaine de jours. Le délai de cette mission de facilitation est donc cadré. Il en résulte une évolution du calendrier puisque la ministre des Outre-mer indique avoir demandé au président de la République et au Premier ministre qui l'ont accepté de décaler la présentation du projet de loi organisant la consultation anticipée des Calédoniens au Conseil des ministres du 17 décembre afin que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie puisse délibérer sur celui-ci une fois les éventuels éclaircissements, ajustements ou compléments connus de tous. Un décalage d'une semaine que Naïma Moutchou avait déjà annoncé à la présidente du Congrès, Velma Falayo. Le projet de loi sera examiné en Conseil des ministres le 17 décembre et non plus le 10, ce qui donne un délai supplémentaire au Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui est saisi pour avis sur le texte. Il devait se réunir le 3 décembre en séance publique. Cette séance sera sans doute reportée au 10 décembre. Dans sa lettre à la présidente du Congrès, Naïma Moutchou donnait deux autres éléments de calendrier. Le Conseil d'État se prononcera sur le texte le 11 décembre et non le 4, comme cela a été prévu initialement. Et le projet de loi organisant la consultation devrait être présenté début janvier au Parlement.
Et dans ce courrier aux trois fonctionnaires, Elisabeth, la ministre des Outre-mer, annonce aussi une autre mission.
Parce que le processus de Bougival est compliqué et qu'il nécessite tout un processus législatif. Naïma Moutchou indique en effet que les travaux d'écriture de la future loi organique statutaire et de la future loi fondamentale nécessiteront des délais supplémentaires et qu'ils mobiliseront une expertise juridique complémentaire. Elle précise en conséquence qu'ils feront l'objet d'une autre mission qui sera désignée dans un second temps et que ces textes n'entrent pas dans le champ de la mission des facilitateurs. Et puis, autre précision de la ministre des Outre-mer, elle ajoute qu'elle aura l'occasion d'annoncer avec le Premier ministre dans les prochains jours les contours d'un plan de relance ambitieux de l'économie calédonienne. Un plan de relance basé sur les travaux et recommandations de la mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie.
Et on rappelle que la mission de facilitateur est composée du préfet du Doubs, Rémi Bastille, de l'ancien haut-commissaire Thierry Lataste et de l'ancien conseiller outre-mer de Nicolas Sarkozy, Benoît Lombrière. Ils sont donc arrivés ce matin et ils ont déjà commencé leurs échanges avec les groupes politiques, mais ces entretiens sont entourés de la plus grande discrétion. Et cette mission des facilitateurs est aussi au cœur de votre chronique de la semaine écoulée que l'on retrouve tout de suite comme chaque lundi.
Quand on veut enterrer une décision, on crée une commission, disait Georges Clemenceau. En Calédonie, quand on rencontre un problème, on crée une mission. La preuve avec la énième mission qui arrive aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. On a eu des missions du dialogue, de conciliation, de négociation, et j'en passe. C'est aujourd'hui une mission de facilitateur qui est nommée pour tenter de démêler l'imbroglio calédonien. Et on peut penser que ce n'est pas du luxe. Thierry Lataste, Rémi Bastille et Benoît Lombrière ont pour mission d'appuyer l'action du gouvernement pour parvenir avec l'ensemble des partenaires à un accord consensuel sur l'avenir du territoire. On leur souhaite bon courage, parce que leur expérience et leur connaissance fine, invoquées pour justifier leur nomination, ne seront pas de trop pour nous sortir de l'impasse. On recherche donc de nouveau un accord consensuel et on a l'impression une fois encore d'un retour à la case départ. Parce que cet accord consensuel, on avait l'impression qu'il avait été trouvé le 12 juillet dernier à Bougival, un accord qualifié d'historique, adoubé par les plus hautes autorités de l'État et signé par les 6 délégations qui avaient participé aux négociations. Mais alors qui veut la mort de Bougival? C'est la question que l'on a en droit de se poser, alors que depuis quelques jours, les déclarations se multiplient pour affaiblir, voire dynamiter, l'accord signé le 12 juillet. Des prises de position manifestement coordonnées selon les loyalistes qui appellent solennellement au respect de l'esprit et de la lettre de l'accord de Bougival, mais ils sont bien les seuls avec le rassemblement à tenir cette position. L'UCFLNKS, on l'a compris, est contre Bougival, ses négociateurs ont retiré leur signature et l'UC veut se mettre en ordre de marche pour faire échec au projet d'accord. Mais ce désengagement semble désormais contagieux avec les réserves émises par l'UNI, qui défend Bougival, mais qui veut le bonifier et l'améliorer en modifiant notamment les modalités de transfert des compétences régaliennes, qui est pourtant l'un des points d'équilibre du texte. Calédonie Ensemble, de son côté, rappelle qu'elle souhaite que soit proposé un complément consensuel à la trame de l'accord pour lever les ambiguïtés qui subsistent et réécrire ce qui a été incompris ou mal exprimé. Et l'éveil océanien aussi prend ses distances en réclamant des compléments aux travaux issus de l'accord cadre de Bougival pour arriver à un véritable accord consensuel. Sans oublier ceux qui relativisent Bougival en le qualifiant d'accord syndical et qui veulent nous rejouer la troisième voie, renommée pour l'occasion « voie médiane ». C'est le projet de loi sur la consultation anticipée qui a été le détonateur de ces volte-face. Mais on peut penser que ce n'est qu'un prétexte. Les mêmes critiques se seraient exprimées si le calendrier n'avait pas été inversé et si la loi constitutionnelle avait été présentée au Congrès de Versailles avant que les Calédoniens ne soient consultés. Comme si 4 délégations sur 6 revenaient 4 mois et demi plus tard sur la signature qu'elles ont apposée sur un document intitulé, paradoxalement, le pari de la confiance. La mission mandatée par le Premier ministre et la ministre des Outre-mer est chargée d'identifier les précisions et compléments souhaités par plusieurs partenaires et de proposer au gouvernement les éclaircissements, ajustements ou compléments qu'elle estimera nécessaires à l'accord de Bougival. Mais à ce niveau, ce ne sont pas de facilitateurs dont on a besoin, mais de démineurs qui soient capables de détruire une par une les réserves, les critiques, les arguments si suspects qui érigent les uns et les autres depuis la signature du 12 juillet. Et ce sera tout, sauf facile.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, vous la retrouvez sur notre site internet. Vous pouvez aussi, vous le savez, la réentendre cet après-midi. Ce sera juste après le flash de 16h.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la question du jour. Pensez-vous que la mission de facilitateur composée de Thierry Lataste, de Rémi Bastille et de Benoît Lombrière va permettre de sauver l'accord de Bougival ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. À 11h41, une première pause dans ce journal avant de s'intéresser dans un instant au reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et notamment l'actualité judiciaire.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Savez-vous que des appareils propres utilisent moins d'énergie ? Pensez à nettoyer régulièrement le filtre de la cuve et le joint de porte de votre lave-vaisselle et à dépoussiérer régulièrement la grille de votre frigidaire ainsi que vos lampes et luminaires.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, 11h, 13h. Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Calédonie avec les faits divers et l'émotion à la fois. Vendredi matin, un septuagénaire s'est fait agresser sur le parking d'un commerce et sa voiture a été volée, Nicolas Legrand.
Oui, et cet homme a été blessé au cours de cette agression. Rapidement, Florence Roland, maire de la Foi, a publié un communiqué pour exprimer son soutien à la victime et à sa famille et a également lancé un appel à témoins. Aujourd'hui, son état physique s'est stabilisé, mais l'homme est toujours choqué, bien entendu. Écoutez Florence Roland, maire de la Foi.
Aujourd'hui, son état s'est stabilisé, mais c'est juste inacceptable et certainement ce monsieur ne s'en remettra pas comme cela. Je veux redire aussi tout ce soutien à la famille. Je crois que nous sommes tous en colère, nous sommes dans l'incompréhension, mais à la fois on est aussi solidaires, donc nous ne les laisserons pas seuls, bien évidemment. Nous avons toutes et tous manifesté un soutien fort à la famille. C'est quand même des faits d'une violence inouïe. Je le rappelle, c'est un homme qui a plus de 70 ans, donc c'est une personne vulnérable. C'est à nos yeux une agression gratuite, lâche, qui est aussi révélatrice depuis les émeutes de faits violents, complètement décomplexés en pleine journée. C'est l'ensemble de la population lafoyenne qui est indignée parce que on vit paisiblement en brousse. Il est impossible de penser qu'on pourrait être suivi à sa voiture à 10h du matin en portant ses courses. Ça, pour nous, c'est inacceptable, ça suffit.
Et les agresseurs sont toujours dans la nature, mais l'enquête semble avancer, notamment grâce aux témoignages et au réseau de 18 caméras de vidéosurveillance installées sur la commune.
Ce qu'on peut dire, c'est que grâce au réseau de vidéoprotection et à la participation de plusieurs témoins, on a pu identifier un des individus. Là, on parle de personnes qui habitent sur d'autres communes. On parle d'adultes qui ont plus de 30 ans, qui sont déjà connus des services. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'une question de temps. Nous faisons confiance aux forces de gendarmerie pour que ces personnes soient appréhendées le plus rapidement possible. Nous devons interpeller ces auteurs-là et les moyens sont mis en place aussi bien des services de l'État qu'au niveau de la mairie. Donc on attend une réponse forte aussi de la justice.
Et pour le moment, les autorités judiciaires n'ont pas communiqué sur cette affaire.
Et puis un officier du RSMA en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte en fin de semaine dernière. Cet officier a été mis en examen pour viol et agression sexuelle entre 2024 et 2025. Il clame son innocence et il a d'ailleurs fait appel de la décision de placement en détention provisoire. Écoutez Maître Barbara Brunard, son avocate.
C'est une décision que nous avons contestée. Je voudrais rappeler que la détention provisoire, c'est une mesure qui doit rester l'exception. Quand on n'a pas d'autre choix, il faut qu'il y ait un certain nombre de critères qui doivent être remplis pour que la détention provisoire puisse être prononcée. Et dans le cas de mon client, ces critères ne sont pas remplis. Mon client, il s'est exprimé au cours de sa garde à vue et au cours de l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction. Il est important de rappeler, bien sûr, qu'il bénéficie, comme tous les citoyens, de la présomption d'innocence. On a un juge d'instruction qui va maintenant instruire son dossier à charge et à décharge, donc il va faire son enquête pour voir quels sont les éléments qui peuvent être retenus ou qui ne doivent pas être retenus contre lui. Et il ne faut pas oublier, vous savez, on a des exemples quand même très récents de décisions judiciaires avec des personnes qui avaient été mises en examen, qui ont été traduites devant la justice et finalement qui ont été relaxées. Donc il faut laisser l'enquête se poursuivre sans porter de jugement hâtif.
Et le jugement en appel concernant la détention provisoire du mis en cause devrait avoir lieu sous 15 jours. Une bagarre sur fond d'alcool qui vire au drame. C'est l'affaire que doivent examiner les jurés aujourd'hui et demain devant la cour d'assises de Nouméa. L'accusée Charlotte Coulson est jugée pour avoir tué un homme lors d'une soirée d'anniversaire encore une fois particulièrement arrosée. C'était à Kouaoua en 2023.
Des festivités qui tournent au drame. Le 10 septembre 2023, une jeune fille fête sa majorité à Kouaoua. Au cours de la soirée, une altercation éclate entre la victime et son neveu, qui reçoit, semble-t-il, une gifle de son oncle. Un autre homme, celui qui est accusé aujourd'hui, lui aussi alcoolisé, se mêle au conflit. C'est à ce moment que la bagarre prend une autre tournure. L'accusé assène un coup à la victime, qui tombe une première fois au sol, mais se relève. Il reçoit alors un second coup et cette fois la chute est plus violente, sa tête claque par terre et il reçoit même un coup de pied au crâne de la part du mis en cause. C'est ce que décrivent plusieurs témoins. Inconsciente, la victime est aspergée d'eau mais cela ne suffit pas à la réveiller. Il est mis dans la benne d'un pick-up et transporté au dispensaire avant d'être transféré au Medipol. Il décède 3 jours plus tard, dans la nuit du 13 au 14 septembre 2023. Ce récit, lu par la présidente du tribunal aujourd'hui, est difficile à entendre pour les parties civiles. Le père de la victime, un homme âgé, se retire de la salle, disant ne pas se sentir bien lorsque le déroulé de la soirée est passé en revue. De son côté, l'accusé apparaît agité, il se gratte, tripote son micro, fuit le regard de la présidente du tribunal. Lorsqu'elle lui demande « Qui êtes-vous ?», souhaitant que l'accusé lui décrive sa personnalité, il est hésitant. Il parle de son enfance difficile, il grandit avec un oncle violent, commence à consommer des stupéfiants à l'âge de 9 ans, il est exclu de l'école avant d'obtenir un diplôme. Il se décrit finalement comme tranquille et gentil, des adjectifs questionnés par l'avocat général qui passe en revue les 17 condamnations de l'accusé, dont 4 pour des faits de violence aggravée. C'est quasiment une condamnation par an depuis le 2011. À l'époque, il était à peine majeur. Aujourd'hui, l'accusé a 32 ans, il est père d'une enfant. Sa victime, elle, était âgée d'une quarantaine d'années en 2023. Père de 3 enfants, il avait aussi été condamné pour des faits de violence volontaire par le passé. En ce moment, les témoins sont entendus par les juges. Cet après-midi, les experts psychologiques interviendront. Le verdict devrait être rendu demain. L'accusé encourt jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. En direct du tribunal de Nouméa, Charlotte Coulson, Radio Rythme Bleu.
Infomag, 11h48.
Les sciences juridiques et économiques au cœur d'une riche semaine en événements à l'UNC jusqu'à vendredi. L'université ouvre en effet ses portes aux chercheurs, aux étudiants, aux professionnels et citoyens pour découvrir des conférences, des colloques et des soutenances de thèses. Ce matin, c'est un colloque consacré à la justice transitionnelle qui a ouvert l'événement, un sujet qui a particulièrement intéressé les participants.
Je suis étudiante en Master 1 de droit privé à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et c'est dans ce cadre que j'assiste au colloque qui est très intéressant, surtout en vue de la conjoncture actuelle et avec tout ce qui s'est passé avec les exactions de l'année dernière. C'est intéressant de s'interroger sur l'avenir du pays, notamment institutionnel et juridiquement, comment ça peut se passer si on veut développer la Nouvelle-Calédonie.
Je pense que c'est vraiment quelque chose que le pays a besoin parce que je pense qu'il faut que certaines paroles se libèrent et que on arrive un petit peu à se parler les uns les autres.
Et le thème de la justice transitionnelle sera étudié encore cet après-midi, mais aussi mercredi avec une partie pratique. Il s'agit d'une pièce de théâtre. Le programme des conférences de la semaine est à retrouver sur le site internet de l'université. Valoriser l'industrie en Nouvelle-Calédonie, c'est le but de la semaine de l'industrie qui a en fait commencé la semaine dernière et qui se poursuit encore cette semaine. C'est toujours un moment privilégié pour expliquer son rôle au grand public et pour l'occasion, plusieurs entreprises industrielles ouvrent leurs portes à des visites pour le grand public. Nous en avons parlé ce matin avec Xavier Benoît, le président de la FIN, qui était en effet notre invité du matin.
Il y a toujours cette nécessité aujourd'hui, il faut qu'on soit plus constant sur la manière dont on fait découvrir les capacités de fabrication en Nouvelle-Calédonie. On sait faire plein de choses, on sait faire bien plein de choses en Nouvelle-Calédonie, il faut qu'on le fasse découvrir à tout le monde. La situation est complexe, elle est différente par secteur d'industrie de transformation, mais on traverse une crise sans précédent et personne n'est épargné, même l'industrie de transformation aujourd'hui.
La FIN organise à cette occasion demain et mercredi deux soirées au CCT avec deux tables rondes à chaque fois. Le public intéressé peut s'inscrire sur le site de la FINC. Et comme tous les acteurs économiques du territoire, Xavier Benoît s'inquiète de la situation catastrophique.
Ah, toujours de l'espoir, parce que nous, entrepreneurs, tous les matins, on se lève, on va bosser parce qu'on y croit. Mais il faut quand même être assez conscient de la situation. La CAFAT a révélé il n'y a pas très longtemps un chiffre, 14 000 emplois détruits, 14 000 emplois nets détruits depuis mai 2024. Donc c'est une bombe sociale. Et si on ne relance pas la machine très rapidement, ça risque de nous exposer à la figure.
Et nous sommes également revenus avec Xavier Benoît sur la proposition de démantèlement de la SLN évoquée il y a encore quelques semaines dans le magazine de la FINC.
On n'a pas du tout proposé de démanteler la SLN. Notre volonté n'est pas de tuer la SLN. Notre volonté est qu'on puisse réfléchir au modèle métallurgique. Donc il faut différencier les activités de la SLN, mais on est tout à fait ouvert à en parler avec la direction de la SLN. La question, c'est qu'on a aujourd'hui une métallurgie calédonienne, donc les deux usines qui sont encore en survie, qui ne sont en survie que parce que l'État verse des montants très significatifs pour les maintenir à flot. Et donc aujourd'hui, il faut réfléchir à quel sera le modèle de demain en matière de métallurgie en Nouvelle-Calédonie.
Vous avez eu des contacts avec les responsables de la SLN pour évoquer tout ça ?
On a commencé à avoir des contacts et donc maintenant on doit formaliser des échanges avec eux.
Xavier Benoît, le président de la FINC, invité ce matin sur Radio Rythme Bleu. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur notre site rrb.nc. En bref, noter du changement en vue au consulat d'Australie en Nouvelle-Calédonie. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a annoncé la nomination de Meghan Bainbridge à ce poste. Meghan Bainbridge parle français et l'arabe et elle a auparavant exercé des fonctions au Liban et en Afghanistan. Elle va donc remplacer dans les jours qui viennent Annelise Young qui était en poste en Calédonie depuis le 20 juin 2022.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Et oui, voilà déjà une semaine maintenant que nous avons lancé cette opération pour faire briller, grâce à vous, la lumière de Noël dans les yeux des enfants et notamment ceux dont les familles rencontrent des difficultés. Merci déjà à toutes celles et tous ceux nombreux qui sont passés déposer des jouets à la radio, mais nous avons encore besoin de votre générosité. N'hésitez pas, quand vous faites des courses, à aller acheter un petit cadeau. Ça fera toujours beaucoup de plaisir aux enfants qui en seront les destinataires. Vous pouvez passer déposer ces cadeaux tous les jours à la radio de 7h à 19h, week-end compris, mais aussi au magasin Petit Dôme, route de Lanzvata, qui est partenaire de cette opération. N'hésitez pas, on compte sur vous. Il est 11h53, une nouvelle pause avant de voir l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Comme chaque année, la ville de Nouméa invite tous les Nouméens à vérifier leur inscription sur les listes électorales et à mettre à jour l'adresse de leur domicile avant le 31 décembre 2025. Dans un premier temps, vérifiez votre inscription sur le site internet www.electeur-nc.fr. Si vous n'êtes pas encore inscrit ou que vous êtes nouveau résident de la commune, faites les démarches d'inscription auprès du service des élections à l'hôtel de ville. Pour rappel, les jeunes majeurs sont automatiquement inscrits sur les listes électorales. Si vous avez changé de quartier au sein de la commune, signalez ce changement au service des élections à l'hôtel de ville de Nouméa. Votre adresse de domicile détermine le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit. Retrouvez toutes les informations pratiques et la marche à suivre dès maintenant sur le site www.nouméa.nc ou par téléphone au 27 31 15. Ces démarches sont nécessaires pour participer aux scrutins organisés en 2026. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2025, mais n'attendez pas le dernier moment. Ceci est un message de la ville de Nouméa.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
L'actualité en métropole, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Et Jordan Bardella est revenu sur les agressions dont il a été victime ces derniers jours. La semaine dernière, il a été enfariné par un jeune homme alors qu'il discutait avec des agriculteurs à la foire de Vesoul. Ce week-end, un homme l'a agressé encore alors que le président du Rassemblement National dédicaçait son livre à Moissac. Jordan Bardella l'a raconté sur le plateau de CNews en expliquant que son agresseur, un septuagénaire toujours en garde à vue, n'en était pas à sa première agression.
Il s'en était déjà pris au bus de Marine Le Pen en 2022, il s'en était déjà pris à Éric Zemmour, il a été condamné par la justice et il a récidivé. Il a donc pris un livre, il a fait la queue comme tout le monde pendant peut-être environ 2 heures. Et au moment de se dresser face à moi, il m'a sauté dessus en portant un coup sur le visage. Et puis les fonctionnaires de police du service de la protection qui assurent ma sécurité l'ont exfiltré et il a été placé en garde à vue.
Jordan Bardella a bien sûr déposé plainte et il s'inquiète de la violence qui se manifeste de plus en plus souvent à l'encontre des élus, ou en tout cas de certains élus.
D'abord, je m'attends à tout quand on fait de la politique. Je sais que quand on est engagé en première ligne, on en assume les conséquences. Et c'est vrai que faire de la politique aujourd'hui, c'est extrêmement violent. Il y a des gens qui vous apprécient, il y a des gens qui ne vous apprécient pas. Et par définition, quand vous êtes exposé et que vous êtes en première ligne de la bataille, il vous faut être extrêmement solide. Mais moi, je suis extrêmement inquiet de voir un climat de plus en plus violent s'installer dans notre pays, une brutalisation du débat démocratique qui amène à distinguer deux phénomènes. D'abord, il y a ceux qui s'en prennent physiquement aux élus, ceux qui s'en prennent physiquement au débat démocratique par la violence. Ceux-là, ce sont ceux qui frappent. Et puis, il y a derrière ceux qui légitiment, ceux qui banalisent la violence. Et c'est vrai que la violence vient bien souvent toujours du même côté et elle est bien souvent toujours subie par le même camp politique.
Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, sur le plateau de CNews. L'enquête avance sur la double évasion la semaine dernière de la maison d'arrêt de Dijon. 2 détenus dans 2 cellules voisines avaient scié les barreaux de leur cellule pour prendre la fuite. L'un d'entre eux a été interpellé quelques jours plus tard. Le second, âgé de 19 ans, au profil plutôt inquiétant puisqu'il était incarcéré pour tentative de meurtre, est toujours en cavale. Mais l'un de ses complices présumés a été interpellé à Besançon au cours d'une opération qui a mobilisé plusieurs commandos du RAID, a expliqué Axel Ronde, le porte parole du syndicat CFTC Police.
Maintenant, on travaille dans le grand banditisme, des individus qui n'ont pas peur d'utiliser des armes. Donc, on ne prend plus aucun risque quand on va procéder à des interpellations dans ce type de milieu.
Le détenu, toujours en fuite, était en détention donc pour tentative de meurtre et la famille de sa victime réclame une protection policière tant qu'il n'a pas été interpellé. L'actualité en métropole, c'est aussi ce drame près de Nancy à 9 maisons. Un incendie s'est déclaré dans un magasin avant de se proposer aux étages supérieurs de l'immeuble. 5 personnes, dont 2 mineurs, ont péri dans les flammes. Écoutez le maire de la commune, Pascal Schneider.
C'est un incendie violent. Malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, l'incendie a embrasé toute la maison et 5 personnes sont décédées. C'est pas une personne, c'est pas deux, c'est 5, dont 4 membres de la même famille. C'est l'effroi, le cauchemar et la surprise. Mon bureau donne sur la maison concernée, donc je suis effondré.
Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet incendie. Et puis l'actualité à l'étranger avec la suite du voyage du pape. Après une première étape en Turquie, Léon XIV est au Liban, un pays en crise depuis plusieurs décennies. Il a évidemment adressé un message de paix aux Libanais qu'il a aussi exhorté à ne pas quitter leur pays malgré les difficultés qu'ils rencontrent.
Vous êtes un peuple qui n'abandonne pas, mais qui, face aux épreuves, sait toujours comment renaître avec courage. Votre résilience est une caractéristique indispensable des véritables artisans de paix.
La dernière visite d'un pape au Liban, c'était Benoît XVI. Il s'y était rendu en 2012. Il est 11h59, c'est la fin de ce journal.